pourquoi Dieu ne me répond-il pas? Il y a des situations où nous n'avons pas la réponse de Dieu. Il peut y avoir aussi des sujets de prière pour lesquels nous n'avons pas encore eu la réponse de Dieu. Il y a aussi des situations difficiles où nous aimerions avoir des réponses, mais là aussi nous n'avons rien. La Bible a plusieurs choses à dire sur la prière qui reste sans réponse. La Bible montre plusieurs conditions pour que nos prières soient exaucées. On a entendu plusieurs éléments dans les chants que nous avons entendus ce matin. La prière doit être faite avec foi. La prière doit être faite en recherchant la volonté de Dieu. Donc, cette volonté qu'on trouve dans la Bible. La prière doit être faite avec un cœur pur. Et enfin, la prière doit être faite avec persévérance. Et bien sûr, nous devons appartenir à Dieu, avoir placé notre foi en Jésus-Christ. Mais pourquoi Dieu ne répond-il pas à ma prière? On a un peu entendu dans ce que je viens de dire. Peut-être parce que je manque de foi, je n'y crois pas. Peut-être parce que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, le sujet pour lequel je prie. Peut-être que je prie sans vivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Peut-être que je dois encore attendre et ne pas arrêter de prier pour le sujet en question. Donc continuer avec persévérance jusqu'à voir Dieu agir. Toutes ces hypothèses nous montrent une chose. Prier est une chose sérieuse. Prier n'est pas un jeu. Prier, faire des demandes à Dieu, demande d'être avant tout centré sur lui. Centré sur Dieu. Il faut ensuite regarder l'état de notre cœur. Et enfin, nous assurer que le sujet que nous donnons à Dieu est vraiment dans sa volonté. Quand nous savons que le sujet pour lequel nous prions est conforme à la volonté de Dieu, nous devons prier jusqu'à voir Dieu agir. Ok. Mais même en mettant tout cela en place, il peut arriver donc, de prier Dieu et de prier Dieu de nous délivrer d'une souffrance ou d'une faiblesse. Nous prions pour un miracle légitime. On se dit, mais c'est logique que Dieu agisse maintenant. Mais il n'y a toujours pas de réponse. Nous crions à Dieu, mais toujours rien. Plusieurs années passent et nous avons toujours notre souffrance. Nous ne voyons pas Dieu agir. Il y a plusieurs questions que nous nous posons, dont celle-ci, dans de telles situations. Pourquoi Dieu ne me répond-il pas? Et il y a tellement de réponses qu'on pourrait donner à une telle question. Et je ne pourrais pas tout dire ce matin. Mais j'aimerais vous donner juste 4 points sur ce sujet. Comment faire? C'est comme ça que je vais poser la question. Comment faire quand Dieu ne me répond pas? Comment vivre sans avoir les réponses de Dieu? Premièrement, continue à prier. Deuxièmement, soyons à l'écoute de Dieu. Troisièmement, comptons sur sa grâce. Et quatrièmement, rappelons-nous que le plus grand désir de Dieu est que nous expérimentions sa puissance. Allons-y. Premier point, continuons à prier. Un homme a vécu cela dans la Bible. Il priait, mais Dieu n'a pas retiré sa souffrance. Cet homme s'appelle Paul. Je ne parle pas de Paul Kuhn qui était là, mais d'un homme bien plus ancien qui n'est pas de notre sur terre, mais qui vit et qui a donné sa vie à Christ, donc qu'on verra bientôt. Cet homme est l'une des personnes qui a le plus écrit dans la deuxième partie de la Bible, que nous appelons le Nouveau Testament. Il a reçu de Dieu la responsabilité d'annoncer le message le plus extraordinaire au monde, l'Évangile, qui veut dire « bonne nouvelle ». Et quelle est cette bonne nouvelle? Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous délivrer du péché, nous réconcilier avec Dieu et nous offrir la vie éternelle. Paul doit annoncer ce beau message qui délivre et remplit d'espérance. Il doit aussi enseigner les croyants pour qu'ils grandissent dans leur foi et ne cessent de partager l'amour de Dieu aux autres. Dans la lettre que nous allons lire dans quelques instants, Paul doit faire face à un gros problème. On pourrait rire en disant ça, parce qu'il y a tellement de problèmes que Paul a vécu quand on connaît sa vie. Mais il confronte un gros, gros, gros problème là. Il a des prétendus enseignants qui mettent en doute son autorité d'apôtre et attaquent sa réputation. Ces enseignants reprochent à Paul plusieurs choses. Et face à leurs accusations, voici comment Paul réagit. Surprenant. Il prend de la distance et il écrit la deuxième lettre aux chrétiens de Corinthe. Il reformule les accusations des faux enseignants, les démonte, en démasque les critères pour ensuite les réinterpréter théologiquement à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Ce qui est surprenant, c'est ça qui est vraiment surprenant, c'est que Paul parle de ses mérites. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, si vous lisez tout ce chapitre, c'est surprenant. On se dit, mais comment est-ce possible que Paul, l'apôtre Paul, puisse se vanter, quoi? Il est là, il parle de ses mérites, de ses avantages, de ses titres. Il est comme contraint, en fait, et forcé d'agir ainsi. Et vous le comprendrez très vite quand vous lisez ce texte. Il fait cela pour sauvegarder, protéger la pureté du message de l'Évangile. Après avoir parlé de ses supériorités, en plus lui-même il dit « je parle un peu comme un fou hein, », c'est comme un peu des termes comme ça qu'il emploie. Et quand il parle de sa supériorité d'apôtre, juste après, il parle de son infériorité. Il se montre faible et pleinement dépendant de Dieu. Et c'est dans un tel contexte qu'il va parler d'une souffrance horrible. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. 2 Corinthiens chapitre 12. Juste le verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Paul dit ceci, « Une écharpe tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper. » C'est choquant. Paul parle ici d'une souffrance horrible. Cette souffrance pour laquelle nous n'avons pas de détails dans le texte biblique a été interprétée de diverses manières. Épreuves physiques, maladie des yeux, accès de paludisme, épilepsie, souffrance morale, de faux apôtres possédés d'un démon, des insultes, il le dit plus loin dans le texte, la détresse, les persécutions, les angoisses qui l'entraînent pour le Christ, etc. Difficile de préciser ce qu'est la souffrance de Paul, mais il emploie quand même des mots forts, qui sont assez clairs quand il parle de Satan, un ange de Satan, un démon, qui est là et qui est comme présent pour le frapper. Image très, très, très troublante. Mais voici ce que Paul a fait et que tout croyant devrait faire, ferait, je pense, à sa place dans un temps de souffrance. Je lis le verset 8. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié. Oui, c'est ce qu'on ferait, nous aussi. J'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Paul désirait tant être soulagé du mal qui se mettait au travers de son ministère. Il se tourne vers ce Dieu qui l'a toujours pris soin de lui. Il lui demande de le délivrer. Paul prie Dieu. Il insiste pour que Dieu le délivre. Paul fait bien puisque Jésus lui-même a enseigné sur la prière persévérante. Paul sait que parfois Dieu attend que nous insistions pour répondre. Ce que Paul fait est normal. Il prie pour que Dieu le délivre de sa souffrance et il reste dans l'attente, il continue à prier jusqu'à voir Dieu agir. Et ça, c'est une chose qui est importante pour nous. Vous êtes peut-être dans une situation où il n'y a pas de réponse, vous continuez à prier, vous n'avez pas vu Dieu agir. Encore, peut-être X années, n'abandonnez pas. Continuez à prier. Il y a plusieurs personnes ici qui pourraient témoigner de sujets qu'ils ont attendus pendant des années et ils ont vu Dieu agir. Ils n'ont pas arrêté de prier. Après, il arrive qu'on Dieu répond malgré tout, même si nous avons arrêté de prier. Comme quoi Dieu est plein de grâce. Et voilà, Dieu veut qu'on continue à prier jusqu'à le voir agir. Comment faire quand Dieu ne répond pas? Continuons à prier. Faisons comme Paul. Continuons à prier avec confiance et persévérance. Deuxièmement, soyons à l'écoute de Dieu. Voici ce que Paul a écrit sur ce qui s'est passé après sa prière au verset 9. Mais il m'a répondu, donc il parle de Dieu, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » La réponse que Paul a reçue de Dieu est bizarre, à première vue. Alors que Paul lui demande d'enlever sa souffrance. En plus, certainement, Paul disait à Dieu, « Si je souffrais moins, certainement que je pourrais encore plus, encore mieux te servir. » Certainement qu'il nous arrête de prier comme ça aussi à Dieu. « Si tu enlevais ça, Seigneur, je pourrais encore mieux te servir. » Mais Dieu lui dit, c'est comme si Dieu lui disait en fait dans le texte, « Non. Je veux que tu enlèves ma souffrance. Non. Ah. Non. Non. Je ne te délivrerai. Je ne vais pas te délivrer. J'ai mieux pour toi. Ma grâce toute suffisante. J'ai mieux pour toi. Ma grâce toute suffisante. » Cela nous rappelle que Dieu peut répondre autrement que ce que nous demandons. Il répond à ses enfants, mais il ne suit pas nécessairement les sentiments qu'ils expriment. Il peut répondre par non. Ah. Ou avec une autre parole pour nous. Pour obtenir une telle réponse de Dieu, Paul n'a pas juste prié trois fois, puis... quand chaque fois il priait, il vaquait ensuite à ses occupations, comme plusieurs croyants ont l'habitude de faire. Paul est resté dans une attitude d'écoute. Dans la présence de Dieu. Il était vraiment dans l'attente de la réponse de Dieu. Je te demande une délivrance. Je m'attends à toi. J'écoute. C'est un fort enseignement pour nous. Encore plus pour nous qui sommes dans un temps où j'ai l'impression qu'on court plus que les siècles précédents. Mais c'est, à chaque fois que je parle aux uns aux autres, c'est quand dire tout le monde court. Hein. T'en es où dans ta course? C'est comme si, au lieu de dire à quelqu'un savant, on pourrait dire t'en es où dans ta course? C'est un fort enseignement pour nous. La prière, ce n'est pas comme quand nous faisons des courses au supermarché. Hein? Manu arrive, la première chose qu'il va prendre, c'est un bon poulet. La liste, elle est là, on prend tout ce que nous voulons, et quand nous avons fini, nous continuons notre vie. La prière doit toujours être accompagnée d'un temps d'écoute, avant, pendant, après. Tout le temps. Tout le temps. Nous avons tellement tendance, moi le premier, à être centré sur nous-mêmes, plutôt que sur Dieu et sa volonté. L'écoute de Dieu à travers sa parole, ou dans le silence, dans l'écoute de Dieu aussi, dans le conseil des frères et sœurs que nous côtoyons, ou dans les circonstances, c'est tellement important. Nous ne devons pas négliger cela, ni quand tout va bien, ni quand tout va mal. L'écoute de Dieu, c'est tellement important. Quand on parle de relations les uns avec les autres, on dira la chose la plus importante dans la relation, ce n'est pas de parler, mais c'est d'écouter. C'est ce qu'on fait avec Dieu. Aïe, mince. Et quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, première chose, qui va se passer, c'est pas qu'on va être pipelette et se mettre à tout déballer, c'est surtout l'écoute va être pour nous très importante, parce que nous voulons connaître, mieux connaître cette personne, être un encouragement pour cette personne, etc. Si nous aimons Dieu, nous devons, la première chose que nous devons développer dans notre relation avec lui, c'est l'écoute. Malheureusement, ce thème de l'écoute est complexe. Et assez souvent, quand je rencontre des croyants, même de longue date, j'entends que sur ce sujet, on est très faible. Et je parle de chrétiens de longue date, je pense à moi aussi. Je ne me considère pas comme mieux.
contraire, j'ai besoin d'apprendre, moi aussi, à écouter Dieu. J'aime ce que le commentateur Wirby a écrit à ce sujet. Voici une citation qui va s'afficher. « Quand vous traversez une épreuve, passez davantage de temps dans la parole de Dieu. Et vous pouvez être certain que votre Père vous parlera. Il a toujours un message spécial à adresser à ses enfants lorsqu'ils souffrent. » Je relis. « Quand vous traversez une épreuve, passez davantage de temps dans la parole de Dieu. » La parole de Dieu, c'est la Bible. Et vous pouvez être certain que votre Père vous parlera. Il a toujours un message spécial à adresser à ses enfants lorsqu'ils souffrent. Dieu ne nous laisse pas tomber, mais vous l'entendez, la souffrance, certains peuvent se dire « je souffre, donc je prie moins, je passe moins de temps dans la parole de Dieu ». Mais au contraire, passons plus de temps, puisque nous avons besoin de lui, et Dieu veut nous parler. Le message que Dieu donne n'est pas forcément une explication à notre souffrance. Ce n'est pas ce que l'auteur est en train de dire ici. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous dirigera, Dieu nous dirigera, pour que nous lui fassions davantage confiance. Voilà pourquoi ce commentateur va ajouter cette citation. Nous ne vivons pas d'explication, mais de promesses. Nous ne vivons pas d'explications, mais de promesses. Pas simple. Quand on regarde une telle phrase, en fait, oui, c'est une chose que tout le monde, d'une certaine manière, vit. On a plein de choses, on aimerait que Dieu explique, et nous n'avons pas des explications. Mais Dieu nous donne des promesses. Cela nous amène à notre troisième point. Comptons sur sa grâce. Paul n'a pas eu l'exaucement de sa prière, mais Dieu lui a parlé. Il lui a donné une merveilleuse promesse. « Ma grâce te suffit. » La réponse de Dieu à la prière de Paul n'était pas du tout celle qu'il attendait. Pourquoi Dieu lui dit-il « Ma grâce te suffit ?» Quand on regarde dans le Nouveau Testament, la grâce, c'est ce que Dieu donne gratuitement et abondamment, la libération du mal, le pardon de nos fautes, la vie éternelle avec lui. On se dit, mais Paul, c'est comme si, est-ce que Dieu lui dit juste, ma grâce te suffit, dans le sens, tu as déjà tout reçu, maintenant débrouille-toi. Non, je ne pense pas. Il y a un autre sens à la grâce. Écoutez bien ceci. La grâce, c'est aussi comprendre à comprendre comme cela, que c'est l'aide de Dieu dans notre vie quotidienne. La grâce de Dieu dans la parole de Dieu n'est pas juste ce que Christ a fait pour nous et tout ce qui en découle dans le sens le pardon des péchés, la vie éternelle, la relation rétablie avec Dieu, mais c'est aussi un soutien pour traverser les épreuves. La grâce de Dieu, c'est pour tous les besoins de notre vie. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour croire en la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité, pour comprendre et mettre en pratique la parole dans tous les aspects de notre vie. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour vaincre le péché et la tentation, pour supporter la souffrance, la déception, le chagrin, pour obéir à Dieu, pour le servir efficacement, pour l'adorer. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour tout. La vie chrétienne, ce n'est pas juste j'ai la Bible et puis il faut juste mettre en pratique, l'appliquer. La vie chrétienne, en fait, est une vie de miracle où Dieu agit dans ma vie et où j'apprends à le laisser agir. Bien sûr, je dois obéir, mais c'est l'obéissance de la foi. La foi dans sa toute-puissance en moi. Tout découle de la grâce de Dieu. Toute la vie chrétienne, la relation avec Dieu, tout ce que Dieu veut faire dans ma vie doit découler de cette grâce. Pour Paul, c'est donc un soulagement énorme de savoir que la grâce de Dieu est toute suffisante pour l'aider à supporter la souffrance, pour traverser cette épreuve. J'ai la force de Dieu avec moi. Dieu est avec moi. Il n'y a rien de mieux. S'attacher aux promesses de Dieu dans nos épreuves est tellement important, n'est-ce pas ? Les promesses nous maintiennent dans sa paix et nous aident à ne pas douter de l'amour de Dieu. Quand Dieu ne répond pas, n'a pas encore exaucé notre prière, notre plus grand soutien, c'est sa grâce. Le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire, nous, quand on regarde la situation, on se dit, bah, c'est la délivrance, c'est que Dieu me sorte du problème. Mais dans l'optique de Dieu, c'est que nous expérimentions sa grâce. Que nous vivons le soutien qu'apporte sa grâce. Paul doit maintenant compter sur la grâce de Dieu, qui est l'aide dont il a besoin dans sa souffrance. Cette grâce peut le délivrer de sa souffrance. Pas de souci. Mais dans notre texte, Dieu lui dit que sa grâce est toute suffisante pour l'aider à supporter sa souffrance. De même, nous devons apprendre à compter nous-mêmes sur la grâce de Dieu pour avoir la force dont nous avons besoin pour faire face aux problèmes, aux épreuves et aux douleurs, aux choses douloureuses de la vie. Si nous souffrons, par exemple, d'une maladie, la grâce de Dieu est l'aide dont nous avons besoin pour trouver guérison. Mais si la guérison ne vient pas, Dieu nous donnera la force de supporter. Amen. Si nous luttons avec un péché ou une dépendance, la grâce de Dieu est ce dont nous avons besoin pour trouver son pardon et sa puissance pour que nous arrivions à dire non au péché. Si nous restons bloqués à cause des blessures du passé, la grâce de Dieu est ce dont nous avons besoin pour transformer notre cœur abattu et le guérir. Si nous doutons de notre avenir pour X raisons, la grâce de Dieu est ce dont nous avons besoin pour lui faire confiance malgré un futur incertain. Si nous souffrons d'amertume, la grâce de Dieu est ce dont nous avons besoin car elle nous rendra capables de lâcher prise, de vivre le pardon et de désirer une pleine réconciliation. Nous devons compter sur la grâce de Dieu, qui est cette aide de Dieu dans toutes nos situations, qui est son aide dans notre vie quotidienne et sa force pour faire face aux problèmes, aux épreuves, aux choses douloureuses de la vie. Compter sur la grâce de Dieu, c'est croire que Dieu ne nous laissera jamais tomber. C'est croire que Dieu est avec nous dans notre épreuve. Très souvent, quand les gens passent par la souffrance, quand je fais des visites et que la personne vraiment est dans le creux, vraiment dans un moment très très dur, assez souvent, ça m'arrive de donner le psaume 23. Et dans ce psaume, ça dit bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu m'as tout expliqué. Parce que tu m'as délivré. Parce que de toute façon, c'est bon, la délivrance est là. Non, parce que tu es avec moi. Quand Dieu dit « ma grâce te suffit », il est en train de dire aussi « je suis là, je suis là ». Paul, je ne vais pas te délivrer, cherche une chose, je suis là. Une consolation tellement forte dans nos épreuves. Compter sur la grâce de Dieu, c'est croire que Dieu ne nous laissera jamais tomber. C'est aussi croire que Dieu ne nous donnera la force de traverser et de supporter nos épreuves ou tentations. À nous de ne pas juste demander à Dieu de nous délivrer. Si on s'arrête à cette prière, il manque quelque chose. Demandons à Dieu sa grâce pour supporter notre épreuve. Et faisons confiance à la grâce toute suffisante de Dieu pour nous secourir. Comment faire pour, quand Dieu ne me répond pas, continuons de prier. Soyons à son écoute. Comptons sur sa grâce. Et quatrièmement, dernier point, rappelons-nous que Dieu veut nous faire expérimenter sa puissance. Ma grâce, voici ce que Dieu dit, ma grâce te suffit. Et il poursuit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Voilà où sont les yeux de Dieu. Pas sur le problème de Paul, mais sur les bienfaits de sa souffrance. Le plus grand désir de Dieu pour Paul, et aussi pour nous, est que nous expérimentions sa puissance. Chaque croyant a aussi ce même désir que Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons que Dieu agisse puissamment dans nos vies. J'espère que cela ne cesse de grandir en vous. Nous voulons que Dieu agisse puissamment dans nos vies pour vivre dans la sainteté, pour grandir en amour pour lui, pour grandir en amour pour les autres, pour encourager et relever ceux qui souffrent, pour témoigner avec foi et audace et être utilisé par Dieu dans toutes nos relations et être efficace dans un ou plusieurs ministères. Nous voulons que Dieu agisse puissamment dans nos vies. Mais plus nous allons prier comme cela, plus aïe aïe aïe. Il faut que nous soyons faibles pour vivre cela. Pour que Dieu agisse puissamment dans nos vies, nous devons être faibles. Voilà pourquoi Paul a écrit au verset 7, « Dieu m'a imposé. » Imposé. Dieu m'a imposé une épreuve. Qui telle une écharpe, nous l'avons vu tout à l'heure, tourmente mon corps, elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper. Écoutez la suite. « Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. » Ouh ! Paul parle d'une grande souffrance que Dieu lui a imposée, mais le but est bien précis. Pour qu'il ne soit pas rempli d'orgueil. Mais est-ce que Dieu se plaît à agir ainsi ? Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'orgueil. Dieu veut qu'on soit faible. Est-ce que Dieu est comme ça ? Bon, je veux que vous soyez faible tout simplement, que vous soyez au plus bas et je le fais avec plaisir. Pensez ça ? Regardez le texte qui va s'afficher. Ce n'est pas de bon cœur qu'il, Dieu, humilie et qu'il afflige les humains. Jamais Dieu ne fait ça de bon cœur. Il voit la finalité, mais ce qui se passe pour Paul n'est pas du tout un plaisir pour Dieu. Ça, ce serait dangereux de penser ça. Dieu n'est pas un sadique comme ça. Je me plais à faire cela. Mais Dieu voit la finalité. Il y a quelque chose de tellement bon après. Dieu ne fait jamais cela de bon cœur. Mais il agit ainsi envers Paul. Et envers nous. Pour notre bien. Afin que, à la fin, nous dépendions de Dieu. De lui totalement. Mes amis, il n'y a rien de pire pour Dieu et même pour nous que l'orgueil. Si nous laissons l'orgueil remplir tout notre cœur et notre vie, cela détruit toutes nos relations. Ça, c'est un truc de base. En fait, vous vous laissez aller à l'orgueil. Vous verrez que tout le monde ne va pas vous aimer. L'orgueil fait fuir les autres. Ça casse les relations, ça détruit les relations. Ça mène à la colère, à toutes sortes de mots. Si nous laissons l'orgueil remplir notre cœur, non seulement ça détruit toutes nos relations, mais surtout notre relation avec Dieu. Et ça détruit l'action de Dieu, ce que Dieu voudrait faire dans notre vie. Dieu ne peut pas agir si nous sommes dans l'orgueil. Et notre cher Paul avait eu des révélations extraordinaires de la part de Dieu qui pouvaient l'amener à vivre dans l'orgueil. Dieu le savait. Voilà pourquoi. Il agit de telle manière à ce que Paul reste humble, reste dépendant de lui. Sinon, Dieu ne pourra pas continuer à œuvrer au travers de Paul. Ça enlève un peu l'image que nous avons de Paul. Hein. Souvent on dit, ah ouais, Paul, c'est impressionnant cet homme. Limite, on a l'impression qu'on lève jusqu'à Jésus-Christ, quoi. Hein? Jésus-Christ n'a jamais péché. Hein? Paul, lui, il a péché. Hein? Et ce Paul-là, ne l'élevons pas. Quand on voit ce qu'il est en train d'écrire, on voit très bien qu'en fait, il a un problème d'orgueil. Et il l'affiche là, clairement, devant ses lecteurs. Écoutez, j'ai un problème d'orgueil, les amis. Et ce que je suis en train de vivre là, ma souffrance, c'est parce que j'ai un problème là. C'est dur d'oser confesser son péché devant les autres. Voici un texte qui est très fort et je ne peux pas ne pas le citer, c'est 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux... Tenez-vous donc humblement sous la puissance de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Il faut attendre. Mais vous remarquerez, l'humilité, il y a toujours la puissance à côté. Bizarre. La même chose que Paul dit est dans le texte. Humilité, puissance de Dieu, à l'action dans ma vie. Si je veux voir Dieu agir puissamment dans ma vie, je dois être humble. Et l'orgueil fait que faire passer à côté de ce que Dieu veut faire. Ce texte est clair, la grâce est accordée aux humbles, à ceux qui reconnaissent qu'ils ont totalement besoin de Dieu pour tout. Alors je vais vous dire une chose. Si Dieu répondait à toutes nos prières, si Dieu répondait à toutes de nos prières, nous serions des chrétiens très faibles, des chrétiens ultra orgueilleux, des chrétiens qui déforment Dieu. Pour Dieu, pour nous, Dieu serait comme ce distributeur automatique. Je prends mon coca, bam. Je prends mes chips au poulet, bam. Manu, il va falloir que tu arrêtes avec ton poulet. Dieu n'est pas comme cela. Et plus on vit une relation intime avec Dieu, et quand nous voyons que Dieu ne répond pas tout de suite à nos attentes, ça nous aide à voir qui est le vrai Dieu. Pas le Dieu que nous, nous formons en nous-mêmes. On devient, comme on pourrait dire, quand on a des enfants et qu'on leur donne des sucreries parce qu'ils en veulent tout le temps, ça fait des enfants gâtés. Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens gâtés. Hein? Cela n'enlève pas qu'il y a des éléments dans notre vie qui sont très très durs. Et je n'aimerais pas que vous compreniez mal ce qu'on est en train de dire ce matin, votre souffrance, ce que vous êtes en train de traverser. Quand vous comparez peut-être à votre frère, votre sœur à côté, vous dites « Moi c'est pire, ça veut dire que je suis plus orgueilleux ou orgueilleuse ?» Non. Il pleut sur les justes comme sur les méchants. Chacun vit une souffrance ou une autre. Et il y a des choses que vous pensez, vous dites, lui il a vécu un truc horrible, terrible, et vous vous dites, c'est lui qui souffre plus. Pas vrai. Il y a des gens qui vont très bien, que vous voyez tous les dimanches, comme un beau smiley, un beau sourire les dimanches, et qui souffrent terriblement dans la semaine. Et vous êtes là, vous connaissez cette personne depuis des années, vous ne savez même pas ça. Nous avons tous nos souffrances. Et même des choses peut-être toutes bêtes dans notre vie peuvent être des grosses souffrances en fait. Pour l'un, on va dire, mais c'est rien ça. Et pour l'autre, ça me met à plat. Donc, les souffrances qu'on en voit chez les uns ou les autres ne veut pas dire qu'ils ont péché, qu'ils sont plus dans le péché, qu'ils ont plus d'orgueil. Ça, c'est dangereux. Tu n'as jamais dit ça dans sa parole. Il y a toutes sortes de mots de souffrance. Et ça, on ne peut pas l'expliquer. Mais je veux que vous entendiez cela. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que pour moi. Mes propres souffrances, difficultés, m'ont fait grandir. Et elles m'ont poussé à chercher Dieu comme jamais. Aujourd'hui, je vois assez souvent à quel point je peux être ingrat envers Dieu. Pourtant, Dieu me fait passer par des moments difficiles pour que je puisse dépendre de lui. Mais combien notre cœur est mauvais, les amis. Et la souffrance, les difficultés, nous aident vraiment à garder le cap et à rester fixés sur le Dieu Tout-Puissant qui nous aime. Ça nous aide à rester humbles devant un Dieu qui est tout-puissant, rester des créatures devant un Dieu qui est créateur. Dieu est Dieu, mes amis. Je peux dire aujourd'hui que je n'ai jamais autant cherché Dieu que quand j'étais dans la faiblesse. Si vous me parliez quand j'étais faible au fond du trou, je suis dans la tristesse, dans les larmes, je ne voyais pas l'action de Dieu en soi. Mais dans ces moments-là, j'ai passé des longues heures à lire la Bible, à lire toutes sortes de livres pour grandir dans ma foi. Quand je dis toutes sortes de livres chrétiens, qui m'aidaient à mieux comprendre la parole de Dieu. J'ai mes combats, mes luttes, tentations, épreuves, tout cela m'a poussé dans les bras de Dieu. Dans mes combats, je n'étais pas bien, je souffrais. Ma mère souffrait. Plein de gens autour de moi en ont bavé. Mais quand je regarde en arrière, je peux aussi oser dire qu'il y avait un bien, un bénéfice énorme dans mes difficultés, dans mes faiblesses. Dieu m'a forgé, m'a formé, m'a façonné, afin que j'apprenne à dépendre de lui. Oui, mes difficultés et mes faiblesses étaient un bien pour que je puisse apprendre à ne plus m'appuyer sur mes propres forces, mais sur Dieu seul. C'est ainsi que Dieu a pu se servir davantage de moi, pour que je sois un encouragement pour d'autres. Et je peux dire aujourd'hui, si Dieu m'a appelé après à être pasteur, je ne savais pas qu'en étant, en ayant vécu toutes mes difficultés, Dieu avait en vue ce ministère-là. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu va faire de vous des pasteurs, mais Dieu a en vue des choses belles pour vous. Au travers des difficultés, il y a des gens qui, jusqu'à la fin de leur vie, ont vécu des choses terribles, mais avaient une foi tellement immense en Dieu, une dépendance de Dieu. Ils ont été des gens qui encourageaient d'une manière extraordinaire. Jamais ils auraient pu être des encouragements aussi forts s'ils n'étaient pas dans ces faiblesses et dans ces moments douloureux. Malheureusement, à cause du cœur que nous avons, qui est mauvais, nous avons besoin de passer par là, par des temps difficiles. Mais regardons le bénéfice. Dieu veut agir puissamment dans nos vies. Il veut surtout nous amener à dépendre totalement de lui, afin d'expérimenter sa présence pleine de grâce et sa puissance dans notre vie. C'est ainsi que nous serons des bénédictions énormes pour les autres. J'ai vraiment envie qu'on lise ce texte. Je ne l'ai pas sous les yeux. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre ce texte. 2 Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1. Bon, tu peux l'afficher pour moi. Mais j'ai à cœur de prendre celui-ci, ce texte, qui est dans ce même livre, mais Paul commence dans 2 Corinthiens avec quelque chose d'extraordinaire. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et Dieu de toute consolation. Lui qui donne, qui nous console dans toutes nos afflictions. Dieu a prévu la consolation dans toutes nos afflictions. C'est là sa grâce, en fait. Afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Il dit que nous pouvons être nous recevons forcément la consolation de Dieu. C'est à sa grâce. Mais il dit que quand nous recevons cette consolation de Dieu, celle-ci est un bien pour nous parce qu'elle va nous permettre non seulement nous de l'expérimenter, mais de permettre à d'autres de l'expérimenter. Écoutez la suite. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde pour le Christ, par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons. Comme vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Dieu promet sa consolation. Il dit que nous pouvons l'expérimenter tout le temps. C'est là sa grâce. Il dit qu'en expérimentant cette consolation, nous devenons une consolation pour d'autres. Que ce ministère soit le nôtre, mes amis. Je vais prier. Dieu notre Père, on grandit en toi dans la mesure où l'on comprend notre propre faiblesse et notre besoin de dépendre entièrement de ta grâce. Sans apprendre ces leçons, nous resterons toujours des chrétiens faibles. Nous l'avons dit, des chrétiens gâtés. Parce que nous nous appuyons trop facilement sur nous-mêmes, sur nos propres forces et notre cœur. Voilà, on peut très facilement tomber dans le péché et être dans l'orgueil. Le fait que ta puissance se manifeste à travers notre faiblesse doit renouveler notre courage et notre espérance. Père, merci infiniment pour ton souci constant que nous expérimentions jour après jour non seulement ta grâce, mais aussi ta puissance dans nos vies, qu'au travers de nos difficultés, nous continuons à prier, sans nous relâcher, que nous restions à ton écoute dans des temps de silence et des temps de méditation de ta parole, la Bible, que nous comptions toujours plus sur ta grâce toute suffisante, et que nous nous rappelions sans cesse que ton plus grand désir est que nous expérimentions ta présence pleine de grâce et ta puissance dans nos vies. Père, nous te demandons ta consolation, ta délivrance et ta force pour tous ceux qui ce matin vivent de terribles souffrances. Nous t'en supplions, continue ton œuvre en nous. Apporte consolation ce matin. Si tu n'enlèves pas certaines difficultés, merci parce que tu nous donneras toujours ta grâce et ta force pour les supporter, pour vivre pour ta gloire. Père, que notre vie tout entière, même dans nos tempêtes, soit un chant de louange et une forte proclamation de la beauté de ta grâce, toute suffisante, et une démonstration de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ.